Oui, Seigneur, merci. Merci pour la liberté que tu nous as donnée. Merci parce que tu as fait de nous un peuple libre et libre de s'approcher de toi, Seigneur. Et tu nous invites là, dans ta présence, dans le refuge que tu prépares pour nous, que tu es pour nous. Et merci parce qu'aussi, Seigneur, dans ce refuge, tu t'adresses à nous, tu nous parles. Seigneur, dans notre relation avec toi, tu parles à nos cœurs et tu nous instruis pour notre croissance. Et nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous as donnée, justement, afin que nous soyons instruits et afin que nous puissions grandir en toi, afin que nous puissions comprendre ta pensée, comprendre ton plan, comprendre ta volonté. Nous prions, Seigneur, que ces instants, justement, soient des temps où nous allons pouvoir encore comprendre ta parole, comprendre ta pensée, comprendre ce que tu veux nous dire. Et que ces temps soient utiles pour notre croissance en tant qu'individu, en tant qu'Église. Seigneur, que ces temps nous aident vraiment à pouvoir croître vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ces temps et que ton esprit, justement, nous aide à comprendre ta pensée et à pouvoir pleinement la recevoir et l'intégrer dans nos cœurs. Nous te le demandons. Amen. Amen. Alors, la dernière fois, comme vous le savez, nous avions entamé un nouvel enseignement sur le thème de la discipline dans l'église locale, la discipline dans l'église. On avait commencé par dire que c'est un sujet délicat, c'est un sujet qui fait souvent très peur, c'est un sujet où beaucoup de gens ont déjà été blessés, c'est un sujet où beaucoup de gens sont dans la confusion, et c'est un sujet dont on parle très peu dans nos églises, d'où l'important justement qu'on puisse aborder le sujet pour rééquilibrer les choses. Et donc effectivement, c'est un sujet compliqué, difficile, mais c'est un sujet qui a quand même toute son importance pour notre santé spirituelle et pour la santé de l'Église. Alors, évidemment, je ne vais pas rappeler tout ce que, répéter tout ce qu'on a dit la dernière fois, vous irez écouter l'enregistrement, mais on avait dit la dernière fois que la discipline dans l'Église, c'est une marque de l'Église fidèle. Une Église fidèle, une Église conforme à la parole de Dieu, c'est une Église où on exerce la discipline. Une Église où on n'exerce pas la discipline ne peut pas être considérée comme une Église selon la conception du Nouveau Testament. Et on avait rappelé en effet que la discipline dans l'Église, ça concerne toutes les situations qui peuvent arriver dans lesquelles l'Église, en tant que corps, va avoir à réagir. C'est-à-dire les situations dans lesquelles l'Église va devoir à intervenir, à prendre des décisions, à interpeller des personnes, à recadrer des situations, à corriger des situations. Et donc, on avait dit que c'est extrêmement large. Rappelez-vous les exemples qu'on avait donnés. C'est, par exemple, le péché non repentant, quelqu'un qui vit dans un péché dont il ne veut pas se repentir, quelqu'un qui est dans une situation qui commet un péché dont peut-être il se repent, mais qui peut scandaliser les autres, les situations de désordre communautaire, tout ce genre de situations sont des situations qui appellent la discipline dans l'Église. Et rappelez-vous qu'on avait dit que c'est une condition de santé pour l'Église locale. Si nous voulons que l'Église reste attachée à Jésus-Christ, si nous voulons que l'Église reste attachée à la parole de Dieu, si nous voulons que le Saint-Esprit continue à agir au milieu de nous, nous devons exercer la discipline. Sinon, nous allons dévoyer, soit globalement en tant qu'Église, soit individuellement. Et donc, une Église en bonne santé est une Église où on doit justement veiller à la discipline. On avait aussi vu tout un ensemble de versets sur la discipline dans l'Église locale. Je ne vais pas les rappeler, mais juste revenir sur celui-ci par lequel on avait terminé, je crois, qui montre bien qu'il y a des situations qui imposent une réaction de l'Église. Hein, qui montre bien que c'est un sujet qui est extrêmement traité dans le Nouveau Testament, c'est clair. C'est vraiment un sujet sur lequel on a plein de versets. Rappelez-vous, si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le de l'Église, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pèche en se condamnant lui-même. Donc c'est un autre exemple de situation qui implique la discipline de l'Église, c'est quelqu'un qui crée des conflits. En d'autres termes, en termes plus clairs, quelqu'un qui met la zizanie hein, dans une communauté, ben on va pas le regarder en disant oh, c'est bien, que Dieu te bénisse. Non, 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 on va dire oh, maintenant ça suffit. C'est la discipline de l'Église locale. Okay? On avait vu aussi ce verset Hyménée et Alexandre, que j'ai, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, que j'ai livré à Satan, on expliquera cette expression, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Vous voyez encore une fois que l'apôtre Paul utilise son autorité apostolique vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, ce qui montre bien que le Nouveau Testament, dans l'Église du Nouveau Testament, on exerçait la discipline. Alors, d'autres versets, on l'avait déjà lu aussi, mais je le redis, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Hein ? Évidemment, on n'est pas en train de vous parler ici de quelqu'un qui va dire « Ah oui, Éphésiens au lieu de Colossiens ». Non, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui va vous affirmer que Jésus n'est pas fils de Dieu, quelqu'un qui va vous dire, qui va contester des réalités essentielles de la parole de Dieu, quelqu'un qui va transformer les Écritures, quelqu'un qui va vraiment, c'est vraiment ce qu'on appelle des hérésies. Hein. Donc, il y a ce qu'on appelle les erreurs doctrinales, c'est-à-dire une doctrine sur laquelle on s'est trompé, on n'est pas trop au juste. Et puis, il y a les hérésies. Une hérésie, c'est vraiment quelque chose qui détruit même les fondements des Écritures. Et donc là, la Bible nous dit que le chrétien ne doit pas être tolérant vis-à-vis des hérésies, mais le chrétien doit être extrêmement ferme. Et donc, en tant qu'individu, on doit être ferme face aux hérésies, mais dans l'Église aussi, il faut être ferme par rapport aux hérésies et il faut s'opposer fermement à tout ce qui peut nous éloigner de la doctrine de la parole de Dieu. Alors voilà encore d'autres versets qu'on n'avait pas vus, mais qui vont dans le même sens. Comme ça, vous voyez que ce n'est pas un sujet exceptionnel dans la Bible. Ça revient très souvent. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Hein, » Donc, ceux qui causent des divisions et des scandales et qui portent préjudice à l'enseignement de la parole de Dieu, éloignez-vous d'eux. Autre verset important qui va vous faire plaisir. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Quand on dit « avertissez ceux qui vivent dans les ordres », on ne vous parle pas d'avertir la boulangère au coin de la rue. Il parle bien à des frères. « Nous vous prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Vous voyez que la Bible nous invite à ne pas être simplement spectateurs de situations problématiques, de situations de désordre, mais qu'elle invite l'Église à réagir. Vous devez avertir ceux qui vivent dans le désordre parmi vous. Avertir, c'est-à-dire dire « attention, là, ça ne va pas ce que tu fais. Attention, là, tu sais bien que la parole de Dieu dit ceci. Là, tu es en train de t'égarer. Là, ça ne va pas. » Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ce qui veut dire que dans l'Église, cette pratique d'interpellation de quelqu'un qui ne vit pas selon la parole de Dieu, ça doit être quelque chose de normal. Dans l'Église, c'est normal qu'on s'interpelle les uns les autres quand on fait mal. Dans l'Église, c'est normal qu'on se reprenne les uns les autres. C'est normal qu'on interpelle quelqu'un par rapport à une situation dans laquelle il vit qui ne glorifie pas Dieu. Ça ne doit pas à chaque fois nous faire tomber des nues. Ça ne doit pas nous étonner. C'est la norme de la vie de l'Église. C'est aussi d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. On le verra plus loin, mais il y a une chose essentielle, et je l'ai rappelé la semaine passée, c'est que tous nous sommes pécheurs. L'Église, ce n'est pas un lieu pour les gens parfaits. C'est un lieu pour les pécheurs. Pardonnez. Maintenant, ici, quand on dit « avertissez ceux qui vivent dans le désordre », on parle de la persévérance dans le mal. Évidemment qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut avertir quelqu'un qui un jour ment, regarde quelque chose qu'il ne devrait pas regarder, dit quelque chose de mauvais au téléphone, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui vit dans un désordre, qui s'installe dans le désordre. Alors l'Église ne doit pas dire « oh ben c'est bien, écoute, fais ce que tu veux ». L'Église doit réagir. Alors quand vous voyez ce verset, c'est une idée importante qui doit déjà bien s'ancrer en nous et qu'on a vu jusqu'ici avec ce verset, c'est que quand on voit un verset pareil, on se rend compte que dans l'Église, et là vous allez un peu faire une petite baisse de tension, mais ce n'est pas grave, dans l'Église, ce verset et ces versets signifient que ma vie privée ne regarde pas que moi. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ça veut dire que si je vis dans un désordre personnel, ça regarde mes frères. Ça regarde mes frères et sœurs. Ça ne regarde pas que moi. Hein, on avait pris l'exemple. C'était quoi l'exemple qu'on avait donné la semaine passée j'ai oublié l'exemple. Bref. Mais c'est-à-dire que on est dans une situation où on peut se dire c'est normal que mes frères m'interpellent. C'est normal que mes frères et sœurs aient réagi par rapport à moi. Alors vous voyez que la Bible est très équilibrée hein, quand même. Parce qu'on a consolé ceux qui sont abattus, supporté les faibles, usé de patience envers tous. C'est pas de l'expression de la haine, c'est une expression d'amour. L'amour dans la parole de Dieu, ce n'est pas toujours uniquement d'encourager, uniquement de consoler. L'amour, c'est aussi de reprendre. L'amour, c'est d'avertir. L'amour, c'est de dire à quelqu'un, attention, là, ça ne va pas. Ça, c'est le vrai amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement de la pommade. L'amour de Dieu, c'est aussi de l'avertissement, c'est aussi de la réprimande. Et il faut que dans nos églises, ça soit normalisé. Quand on parle de ce genre de réalité-là, ce sont des réalités qui sont valables pour tout le monde. Tout le monde est à la même enseigne concernant la discipline dans l'église. Personne n'est excepté. Si je vis dans le désordre, vous êtes responsable de me reprendre. Si je vis d'une façon qui ne glorifie pas Dieu, vous devez me reprendre. Si un vendredi, vous me trouvez dans la rue à faire des choses que je ne devrais pas faire, vous ne devriez pas me laisser prêcher le dimanche. Ça ne va pas. Vous devez m'avertir. Et moi, je dois vous avertir si vous vivez dans le désordre. Et donc, c'est quelque chose de mutuel. Nous devons veiller les uns sur les autres. On y reviendra plus tard. C'est un verset qui est quand même très clair. Hein. Vous n'allez pas dire que ce n'est pas écrit. Alors, tu peux passer, s'il te plaît, parce qu'il ne veut plus. Merci. 2 Thessaloniciens 3, 14 à 15. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. C'est dur, hein ? C'est dur, hein, les versets de la Bible quand on s'y penche. Mais pourquoi est-ce que c'est dur ? Pourquoi est-ce que c'est dur ? Avant d'être choqué, réfléchissez d'abord. Pourquoi est-ce que c'est dur ? Parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement dangereuses. En fait, la Bible n'est pas dure pour être dure. Dieu ne nous invite pas à être très attentif à certaines choses pour le plaisir. C'est parce qu'il y a des choses qui sont dangereuses. Il y a des situations dans lesquelles nous pouvons vivre qui peuvent être dangereuses. Il y a des situations de péché, des situations de désordre, des situations d'hérésie qui peuvent vraiment nous faire beaucoup de mal, qui peuvent faire beaucoup de mal à nos âmes, beaucoup de mal à nos vies. Et vous connaissez tous l'exemple de gens qui, malheureusement, se sont retrouvés dans des situations qui ont détruit leur vie spirituelle, qui les ont éloignés de Dieu, qui ont détruit l'Église. Ce sont des situations dangereuses. Quand on parle, on l'a vu juste avant, de quelqu'un qui cause des divisions dans l'Église, mais ce n'est pas quelque chose de pas grave. On parle de l'Église de Jésus, on parle de ceux pour qui Jésus est mort. On parle du corps de Jésus. La Bible dit que l'Église, c'est le corps de Jésus. Donc ça veut dire que c'est Jésus lui-même. L'Église, c'est Jésus. Quelqu'un qui cause la division dans le corps de Jésus, ceux pour qui Christ est mort, mais c'est très grave. Ce n'est pas un détail. Le péché qui vient dans ma vie et qui commence à prendre sa place et dans lequel je m'installe, le péché que j'accepte, avec lequel je copine, avec lequel je me sens à l'aise, mais il va mettre en danger ma vie spirituelle. La petite erreur doctrinale, le petit truc que le prédicateur a dit qui n'est pas conforme à la Bible, ça peut complètement dévoyer la communauté. Et donc la Bible nous invite à avoir des réactions qui sont des réactions fermes par rapport à tout ce qui peut nous mettre en danger dans notre marche avec Dieu, dans notre vie de communauté. Là, il veut. Alors, je vais commencer ici par faire une parenthèse qui va durer un peu de temps, mais qui est quand même un peu important. Jusqu'ici, on a vu, vous voyez, que le Nouveau Testament nous parle de la discipline dans l'Église. Vous êtes d'accord ? Si vous voulez, vous pouvez vérifier dans vos Bibles. Hein. Mais donc, vous voyez que ce n'est pas du tout un sujet qu'on fait sur un petit verset dans Éphésiens. Il y en a plein qui nous montrent que la discipline est importante. Alors ici, la parenthèse qu'on va faire, c'est sur la notion d'église locale. Pourquoi on fait cette parenthèse ? Parce qu'en fait, la discipline dans l'église, elle repose notamment sur la conception d'église locale et de membres de l'église locale. D'accord ? Dans quel contexte est-ce que la discipline s'église ? La discipline s'applique ? Dans une église locale. Et donc, on va faire une petite parenthèse pour rappeler quelques vérités au sujet de l'église locale, puisque c'est le contexte dans lequel la discipline va avoir à s'appliquer. Alors, tout chrétien est appelé à être membre d'une église locale. Tout chrétien est appelé à s'attacher à une église locale dans laquelle il développera sa marche chrétienne et dans laquelle il vivra la communion fraternelle. Le chrétien est donc membre d'une église locale dont il reçoit les soins spirituels et envers laquelle il se sent redevable. D'accord ? Donc tout chrétien, une fois que j'accepte Jésus, une fois que je crois en Jésus, une fois que je fais de Jésus mon Seigneur, mon Sauveur, qu'il vient dans ma vie, que je lui appartiens, tout chrétien va rejoindre une église locale et va s'intégrer dans une église locale. L'église locale va être le lieu où chaque chrétien va avoir ce qui est nécessaire pour vivre la communion fraternelle avec les autres, pour aimer les autres, pour soutenir les autres, dans lequel chaque chrétien va recevoir l'enseignement qui va lui permettre de grandir spirituellement, et dans lequel chaque chrétien va aussi pouvoir, eh bien, se sentir membre d'une communauté. Le chrétien qui est membre d'une église locale reçoit dans cette église locale les soins spirituels dont il a besoin pour croître. Qu'est-ce que ça veut dire, les soins spirituels ? Ça signifie que dans mon église locale, je suis censé pouvoir trouver tout ce qui est nécessaire pour ma croissance spirituelle. De l'enseignement, des gens qui prient pour moi, des gens qui peuvent m'accompagner si j'ai un besoin, des anciens qui peuvent moindre d'huile si je suis malade, des personnes qui peuvent me donner des conseils. Je suis sous le soin spirituel de mon église locale. D'accord ? Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que le chrétien qui est membre d'une église locale sait, d'une part, que l'église locale lui est redevable de certaines choses. Mon église locale doit prendre soin de moi. D'accord ? Donc mon église locale doit savoir que je suis malade et prier pour moi. Mon église locale doit s'intéresser à ma personne. Mais le chrétien sait aussi qu'il est redevable envers son église locale. Et notamment, le chrétien est redevable envers son église locale de son témoignage. Je suis redevable devant mon église locale de comment je vis. D'accord ? Alors je l'ai rappelé la dernière fois, on n'est pas en train de parler de fonctionnement sectaire, hein, ce n'est pas de ça dont on parle. Et quand on parle de discipline d'église, il ne s'agit pas de contrôler ce que tu manges, ce que tu bois, où tu vas au magasin, ça, on ne parle pas de ça. Chacun a sa liberté. Mais quand il s'agit de la moralité, quand il s'agit de notre marche, quand il s'agit de notre témoignage, nous devons nous considérer comme étant redevables à notre église locale. Et donc, quand on dit « mais de quoi tu te mêles, c'est ma vie privée », ça ne marche pas. Ça marche si tu es en train de me parler de, en effet, quel type de pâte tu achètes. En effet, c'est ta vie privée et je m'en fiche, pour ne pas être plus vulgaire. Par contre, ce qui concerne ton témoignage, ce qui concerne ta vie de tous les jours, ce qui concerne ton fonctionnement de tous les jours, ce que tu fais qui peut avoir un lien avec ton témoignage, ça concerne tes frères et sœurs. Ton témoignage concerne tes frères et sœurs. Et donc, je suis redevable envers mon église locale. Imaginez-vous qu'un jour, vous êtes en train de rouler et vous allez vous garer dans un endroit, à Gauzé, par exemple. Vous vous garez à Gauzé, vous mettez votre petite voiture, vous vous garez, vous faites un beau petit créneau, très bien. Et à ce moment-là, vous voyez une maison qui est là et vous voyez une belle pancarte sur la maison « Voyant ». Et avec un petit truc en dessous, je vous dis votre avenir, je vous conseille pour que vous puissiez avoir le bonheur et tout ça. Vous êtes là et puis vous voyez quelqu'un qui va toquer à la porte du voyant Puis vous ouvrez la porte et Patrick est derrière la porte. Il accueille la personne et il rentre avec. Alors vous restez là, vous dites c'est quand même bizarre. Vous attendez un quart d'heure plus tard, une autre personne rentre, il réouvre la porte et vous voyez, c'est vraiment Patrick, notre Patrick. Une troisième personne, c'est la même chose. Alors, il y a un trou, il n'y a plus personne, vous allez toquer, il ouvre la porte, Patrick, c'est toi ? Ben oui, 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 je suis voyant. De temps en temps, en fin de journée, je dis aux gens, je lis sur les mains des gens, j'ai ma petite boule de cristal, et puis je les oriente et je les aide à voir un peu plus clair. Si Patrick est membre de votre église locale, Patrick sait qu'il est redevable de son témoignage envers vous. Ça veut dire que qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez le reprendre. Vous allez le reprendre. Il n'y a pas besoin d'être ancien pour le faire. Il n'y a pas besoin d'être... vous devez le reprendre. Vous devez lui dire, Patrick, tu sais ce que dit Lévitique par rapport à ça ? Tu sais ce que dit Deutéronome par rapport à ça ? Dieu dit qu'il déteste ça. Mais qu'est-ce qui te prend, Patrick ? Qu'est-ce qui t'arrive, Patrick ? Mais je ne sais pas, c'est Tina, elle m'a dit de faire ça. Et... D'accord ? Donc, c'est son témoignage, ça me concerne. Il ne peut pas me répondre, mais ça ne te regarde pas. Si, ça me regarde, parce que c'est ton témoignage. D'accord ? Par contre, que Patrick, en effet, utilise telle ou telle marque pour nettoyer ses habits, ça, c'est son problème. Donc, nous sommes redevables les uns envers les autres de notre témoignage. Le chrétien ne va pas dans une église locale. Alors, je dis ça parce que c'est comme ça qu'on parle. Hein, on va dire, moi, je vais à Dompremy. Moi, je vais à Roux. Hein, donc, c'est un peu l'idée que, ben, en gros, moi, le dimanche matin, je suis dans tel endroit. Alors, en effet, on comprend bien ce qu'on veut dire, mais bibliquement, ça va plus loin que ça. Bibliquement parlant, le chrétien est membre d'une église locale. C'est pas juste que je m'assieds quelque part le dimanche matin, c'est que je suis membre de cette église. J'ai un lien spécifique avec mes frères et sœurs, j'ai un attachement pour une église locale particulière dont je suis membre. Le chrétien est membre d'une église locale, il est inséré dans une famille, il est inséré dans une communauté, et cette communauté a des obligations envers lui, on l'a dit, tout comme il a des obligations envers sa communauté. Donc vous voyez, l'attachement dans la Bible, il est beaucoup plus fort que ça. C'est pas juste je prie là, ou alors parfois on dit ça, oui, moi je prie à Roux, moi. C'est plus que ça, c'est je suis membre d'une église locale. Je suis inséré dans une église locale. Donc une église locale, c'est un groupe de chrétiens qui vivent durablement en communauté, avec une organisation interne, et des responsables pour assurer tant le soin des croyants que le témoignage envers les non-croyants. Donc c'est ça qu'on appelle une église locale. C'est un groupe de croyants, un groupe de chrétiens qui vivent durablement ensemble, qui ont une organisation interne et qui ont des responsables spirituels. Vous voyez très bien que c'est quelque chose d'évident dans le Nouveau Testament. Hein ? L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. Il écrit à l'église d'Éphèse, à l'église de Colosse. Donc il y avait des églises locales et chaque église locale avait des responsables spirituels. Et donc on voit que le chrétien, en effet, va être membre d'une église locale qui est, on appelle ça une église locale parce que c'est un regroupement local de personnes, un regroupement structuré de personnes qui s'assemblent ensemble. La Bible n'envisage pas qu'un enfant de Dieu ne fréquente pas une église locale. Lors de notre conversion, nous sommes insérés dans le corps du Christ, ce qui se manifeste par l'insertion dans une église locale. Lorsque je suis converti, j'appartiens à Jésus, et bien je vais immédiatement trouver ma place dans une église locale. Donc la Bible n'envisage pas le chrétien indépendant. Je crois tout seul et j'ai ma relation avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans le Nouveau Testament. La Bible n'envisage pas non plus qu'un enfant de Dieu, comme on dit et comme on fait actuellement, papillonne entre diverses communautés sans s'attacher à une assemblée particulière. La Bible n'envisage pas que je sois un chrétien volant qui tous les dimanches à une église locale différente et particulière. La Bible n'envisage pas ça. La Bible envisage que chaque chrétien ait son église locale de référence. Alors, il y a des exceptions, notamment les gens qui sont dans des ministères qui parfois ont plusieurs églises locales, ou les gens qui ont deux résidences aussi. Ils peuvent avoir parfois deux églises locales, une ou alors deux lieux de résidence. Mais bibliquement parlant et théoriquement parlant, le chrétien a son église locale de référence. Même les missionnaires, normalement, ont une église locale de référence. D'accord ? Donc ils peuvent aller dans le monde entier, mais ils savent que voilà, moi je suis sous la couverture spirituelle de telle église. Et la Bible n'envisage pas non plus qu'un enfant de Dieu fréquente superficiellement une église. C'est-à-dire y être, juste, voilà, moi je viens, je m'assieds, bonjour tout le monde, et puis je m'en vais. La Bible n'envisage pas le chrétien qui est juste là. Elle envisage que le chrétien se sente responsable de son église locale, qu'il s'insère dans son église locale, qu'il vive la communion fraternelle, qu'il s'intéresse à ses frères et sœurs, que ses frères et sœurs s'intéressent à lui, et qu'il puisse développer un lien, mais aussi qu'il puisse se sentir redevable envers son église locale. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, il faut le dire, même si c'est des choses qui peuvent paraître très, très enfermantes, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est juste la perfection du plan de Dieu. Il faut le dire parce que ça se perd complètement. Pas ici forcément, mais en général dans le monde chrétien, ça devient du grand n'importe quoi. Parce qu'effectivement, les gens ne savent plus. Ils viennent un mois dans une église, puis ils partent dans l'autre église. Ils n'avertissent pas qu'ils sont partis. Et puis, ça ne va pas. Tout ça est ordonné et tout cela est encadré par la Bible. D'ailleurs, vous voyez dans la Bible que lorsque les chrétiens quittaient une église locale, on leur remettait une lettre de recommandation. Ça veut dire que tu vas dans une autre église locale, on va te donner une lettre qui te dit, ben voilà, il a fréquenté cette église, c'était très bien, et voilà. Donc vous voyez que la Bible est beaucoup plus claire que nous. Nous, aujourd'hui, on fait au petit bonheur la chance, on se débrouille, et puis... Mais la Bible nous donne des enseignements clairs. Pourquoi ? Pour notre bien spirituel, pour notre croissance spirituelle, et pour que chacun de nous puissions être dans une famille qui nous protège. On voit dans la Bible, on ne va pas s'arrêter longtemps là-dessus, que les sauvés, les nés de nouveau, sont de facto membres du corps de Christ. Tout sauvé est membre du corps de Christ. Et on voit, très important aussi, que l'œuvre de Jésus à la croix fait de nous les membres d'un même corps, unis spirituellement les uns aux autres. L'œuvre de Jésus à la croix a pour conséquence que toute personne qui confesse Jésus, qui le reçoit comme sauveur, devient automatiquement, lors de sa conversion, membre de l'Église de Christ, et nous devenons donc immédiatement membres les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous tous, nous sommes le corps de Christ. Romains 12, 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres, tous responsables les uns des autres, tous liés spirituellement les uns aux autres. Alors, on voit encore cet exemple-là. Alors, voici quelques conséquences, et on va vraiment venir vite à quelques éléments importants pour mieux comprendre la discipline d'Église. Implication, être membre d'une Église locale implique d'y écouter, d'y recevoir l'enseignement de la parole de Dieu, de vivre avec les autres la prière et la louange collective, de s'investir avec ses dons, avec ses capacités, avec ses ressources, de vivre dans cette église locale les sacrements, les ordonnances données par Christ, de participer à l'œuvre d'évangélisation et de discipulat mis en place dans la communauté, mais aussi de reconnaître que cette église locale est confiée aux soins et à la surveillance des responsables établis dans cette communauté. On y reviendra après. Ainsi que de se sentir redevable de son témoignage envers la communauté. Tout chrétien doit se sentir redevable de son témoignage envers son église locale et il confesse par là qu'il a conscience qu'il est membre des autres, que les autres sont liés à lui et qu'il est lié aux autres. À chaque fois que vous prenez la Sainte Cène, vous confessez que vous êtes membre du corps de Christ et que vous êtes unis spirituellement à ceux qui communient avec vous. Ce qui signifie qu'à chaque fois que vous prenez la Sainte Cène, vous confessez que vous vous sentez redevable aux autres de votre témoignage et que les autres sont redevables envers vous de votre témoignage. À chaque fois, c'est le sens profond aussi, c'est le sens ecclésial de la Sainte Cène aussi, c'est de confesser justement cette appartenance les uns par rapport aux autres. Le frère qui prend la Sainte Cène avec moi, avec qui je communie, il est responsable de veiller sur moi, je suis responsable de veiller sur lui. Et nous sommes responsables l'un de l'autre. Nous voyons aussi, et je ne vais pas m'attarder sur le début, parce que je vous vois déjà venir, mais je vais m'attarder sur la fin du verset. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes devant en rendre compte. Une église locale est aussi une église, et pour être une église, il faut des conducteurs spirituels, et les conducteurs spirituels sont en charge du soin spirituel de la communauté, ça c'est l'aspect que vous aimez bien, mais aussi de la surveillance spirituelle de la communauté, c'est l'aspect que vous n'aimez pas. Donc, ce qu'on appelle un ancien, un épiscope, c'est, bibliquement parlant, c'est un surveillant. Alors, quelqu'un qui veille sur, un surveillant, c'est la même chose. Myriam ? Quand on est surveillant, on veille sur. Parce qu'il y en a qui nous font toute une histoire. Oui, mais surveillant, c'est pas surveillant, c'est veiller sur. C'est la même chose. Quand on surveille une cour de récréation, on surveille, mais on veille sur aussi. Donc, il y a un aspect positif. Les anciens veillent, mais les anciens surveillent. C'est aussi ce que la Bible nous enseigne. Dieu donne à l'Église des bergers qui sont censés veiller à sa santé spirituelle et censés veiller à sa croissance spirituelle, mais aussi à la santé spirituelle individuelle des membres et au témoignage individuel des membres. En d'autres termes, je vais le dire autrement, ma vie personnel, mon témoignage personnel, encore une fois, pas les pas que je choisis, concerne mes anciens. Je le dis, moi, dans ma propre, mon propre rôle, ma propre fonction, à tout moment, les anciens peuvent me convoquer pour me demander des comptes par rapport à une chose ou à une autre. C'est leur droit. Je suis sous leur discipline. D'accord ? Donc, c'est vrai pour tous les croyants, c'est vrai en particulier pour un pasteur. Ça veut dire que chacun doit reconnaître cette responsabilité-là. Je le dis d'une autre façon, il est normal que mes responsables spirituels m'interpellent si à un moment donné je me méconduis. C'est juste normal. C'est juste évident, c'est juste biblique. C'est normal qu'ils s'inquiètent pour mon âme, qu'ils se disent « Tiens, qu'est-ce qui t'arrive ?» Parce qu'effectivement, ça commence toujours par un questionnement. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais si maintenant je dis, bon, écoutez, allez à la gare, ça ne vous regarde pas? Ben, en fait, si, ça nous regarde. Écoutez, allez dans le pachis, laissez-moi tranquille. Écoute, frère, là, tu vis dans une situation publique qui ne va pas. Tu es voyant et tu prends la Sainte-Cène avec nous. Ce n'est pas possible. On va te le dire une fois, on va t'expliquer, on va te montrer la parole de Dieu. Si tu me dis, ah non, de toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas, on va dire, écoute, c'est pas compatible. Donc, tu ne vas pas communier avec nous, à la Sainte-Cène, avec le peuple de Dieu, parce que ton témoignage est contraire aux Écritures. Et ben, tu ne pourras pas te considérer comme membre de notre communauté, parce que tu vis d'une façon qui est contraire à la parole de Dieu. Il y a plein d'autres situations dont on peut prendre des exemples. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été laissées passer des années et des années. Vous avez une sœur qui arrive le dimanche matin, régulièrement, avec un œil au beurre noir. Vous faites des déductions qui ne sont pas très rapides, pas très longues. Elle est tombée dans les escaliers le premier dimanche, le deuxième dimanche aussi. Ouais. Bon. Les escaliers, ils sont vraiment très, très inclinés chez vous. À un moment donné, les anciens vont dire, écoutez, frère, qu'est-ce qui se passe C'est le droit des anciens, savez-vous. Les anciens ont le droit de venir dire, voilà, et même s'il n'y a rien, Mais c'est leur droit de s'inquiéter et de dire, bon, ça commence un petit peu à devenir bizarre, cette situation. Et à un moment donné, si le frère dit, mais vous savez, moi, quand elle m'énerve, ça va pas le faire, ça. Tu peux pas communier à la Sainte Cène et vivre comme ça. Donc c'est ça la discipline de l'Église. Je voudrais ajouter une chose, et je voudrais vraiment que ça reste bien inscrit dans votre tête, ça, parce que ça, c'est souvent oublié, mal compris, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Comme devant en rendre compte devant qui ? Devant Paul Magnette ? Ah non, c'est plus lui, c'est son copain, là. Comment il s'appelle ? J'ai oublié. Dermine, voilà. Devant Thomas Dermine ? Devant le roi Philippe ? Devant Dieu. Un jour, je devrai aller répondre devant Dieu de toutes ces questions. Alors, vous pensez bien que dans les situations de discipline d'Église, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de « Oh, mais qu'est-ce que les gens vont dire ? Qu'est-ce que les gens vont penser ? Oh, oui, mais les gens vont être choqués. » Il n'y a pas. On parle de devoir un jour rendre des comptes à Dieu. Si je sais que quelqu'un vit dans le péché, que je ne dis rien, je devrais en répondre devant Dieu. Si je vois cette sœur et que je sais bien que son mari se comporte mal envers elle et que je ne dis rien, je devrais un jour en répondre devant Dieu. Rendons-nous compte que la discipline d'Église, c'est sérieux parce que nous parlons ici de la santé de l'Église qui appartient à Jésus. C'est l'épouse de Jésus. C'est ce que Jésus a de plus précieux, c'est son Église. Alors ceux qui en sont les responsables doivent prendre soin d'elle, et prendre soin de l'Église, c'est prendre soin, hein, comme le berger qui a une houlette, mais qui a aussi un bâton. Prendre soin du troupeau, c'est nourrir, c'est prendre soin, c'est voilà, mais aussi parfois c'est être sévère aussi. C'est ça aussi l'Église. Être sévère pourquoi ? Pour faire gonfler son ego ? Pour que les gens disent que c'est bien ? Pour que l'Église reste en bonne santé. Pour que les repères de la parole restent clairs pour tout le monde. Pour que l'Église ne devienne pas un lieu où le péché est banalisé. Pour que l'Église reste dans la vérité de la parole. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas une question de situation, c'est une question d'honneur pour Jésus-Christ. À chaque fois qu'on exerce la discipline dans l'Église, que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à vous, dites-vous que ça ne vous concerne pas, en premier lieu. En d'autres termes, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas contre moi. Si un jour je suis trouvé à me méconduire et que mon assemblée doit me recadrer, je ne dois pas le prendre comme étant quelque chose contre moi. On ne m'aime pas, on me déteste, on veut m'humilier. Je dois le prendre comme oh, on veut me protéger du mal, ça c'est un. Et puis deux, on veut protéger l'Église aussi. Pour que tout reste conforme à la parole de Dieu et que nous puissions rester aussi sous la bénédiction de Dieu. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Chaque chrétien doit aussi être conscient que ses responsables spirituels sont responsables devant Dieu pour lui. Pas responsable évidemment de la vie quotidienne, mais responsable de notre marche chrétienne. Alors, on va bientôt finir. Les chrétiens de l'Église doivent veiller les uns sur les autres. Cela implique également de se reprendre et de se corriger les uns les autres. J'insiste, je viens de faire une parenthèse sur les responsables spirituels, mais basiquement, la discipline de l'Église, c'est tout le monde envers tout le monde. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 1, c'est tous responsables les uns des autres. Et puis, évidemment, les responsables ont une responsabilité particulière. Mais on est tous appelés à veiller les uns sur les autres. Et si on se voit les uns les autres mal faire, ça doit être normal dans l'Église de se dire « Écoute, fais attention à ça. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. » Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns. Nous sommes responsables mutuellement. Autre exemple. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Vous avez vu ? Mes frères, si quelqu'un parmi vous, donc on parle bien d'un chrétien, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare et qu'un autre le ramène, qu'il sache qu'il ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort. Voilà, c'est ça les enjeux de la discipline d'Église. Sauvera une âme de la mort. Les choses qui peuvent atteindre nos vies sont dangereuses. Et il couvrira une multitude de péchés. Nous sommes responsables les uns des autres pour nous veiller à ce que nous restions dans les chemins que Jésus a tracés pour nous. Nous sommes responsables donc de nous aimer les uns les autres. Ça, c'est bien, n'est-ce pas ? S'aimer les uns les autres. Nous sommes responsables de nous servir les uns les autres. Avec nos dons, avec nos capacités, avec notre temps, nous servir les uns les autres. Nous sommes responsables de nous encourager les uns les autres. Nous sommes responsables de nous avertir les uns les autres. Nous sommes responsables de nous protéger les uns les autres, de nous protéger du péché. Je vois, je sens que tu glisses. Hein ? Le frère à la place de la digue. Je sens que là, tu es en train de t'éloigner. Je dois t'avertir. Nous sommes aussi responsables de nous protéger du refroidissement spirituel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est aussi responsable de nous aider les uns les autres à rester avec des cœurs bouillants pour le Seigneur. Si on sent que l'Église commence à se refroidir, si on sent que notre frère commence à se refroidir, c'est normal qu'on lui dise. Il faut que ça soit normalisé dans l'Église. Si je te vois tous les dimanches pendant un temps et puis qu'un jour je ne te vois plus, c'est normal que je te dise « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Je dois te protéger de te refroidir, tout comme tu dois me protéger de me refroidir. Et nous sommes aussi responsables de nous protéger les uns les autres vis-à-vis des déformations de la vérité. Nous sommes responsables les uns des autres. Je termine par ce verset. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tout ce qui se vit dans nos relations fraternelles en Église doit avoir pour source l'amour. C'est toujours l'amour, rien d'autre. L'amour pour Dieu, l'amour les uns pour les autres, toujours l'amour en tête. Toujours l'amour comme source. Mais l'amour, comme on l'a dit, c'est aussi d'avertir, c'est aussi de corriger, c'est aussi de rappeler ce qui est important. L'amour, c'est ça. Et donc, rappelez-vous tous que quand on aime son enfant, on ne le laisse pas tout faire. Quand on aime son enfant, on le corrige. Maintenant, on ne peut plus. C'est interdit. Quand on aime son enfant, on lui dit qu'il est en train de s'égarer. Quand on aime son enfant, on peut parfois être très sévère aussi. L'Église, c'est la même chose. L'amour, c'est aussi la correction et c'est une condition de santé spirituelle pour chacun de nous et pour l'ensemble de l'Église. Amen.